Il est 19h sur Radio Campus Paris.
Le soleil est là et il est bien là.
Qu'est-ce que tu veux boire ?
Prendrai une bière.
Pour eux, les vacances, c'est le camping ou rien.
C'est chaud, hein ?
Radio Campus Paris.
Indispensable, la table de camping soutient les bouteilles d'apéritif.
On a organisé les glaçons.
Et un de nos soucis numéro un maintenant, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir ?
Tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Bonsoir et bienvenue à Radio Camping Paris, une heure de découverte, de réflexion et de divertissement. Ce soir, on parlera faits divers, on parlera surf, on parlera aussi premier roman et même d'un festival de films documentaires dont vous pourrez être le juré. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Cohen-Grillet, vous êtes journaliste police-justice et avec lequel nous évoquerons le rôle des médias dans l'affaire Villemain. Joran Briand, oui c'est bien cela, il est designer, il aime surfer. Alexis Chaillou est responsable du web chez Greenpeace France et Paul-Henri Bison, que nous aurons tout à l'heure au téléphone, nous parlera de son premier roman, La Louve, qui paraîtra fin août chez Gallimard, et ce seront donc les auditeurs de Radio Camping Paris qui l'écouteront les premiers. Voilà, le programme est lourd et alléchant, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite ou presque. Messieurs, bonsoir. Alors, Philippe Cohen-Grillet, pour vous les vacances c'est quoi ?
C'est la période de l'année durant laquelle les chaînes de télévision passent en boucle des publicités pour les préservatifs et les crèmes dépilatoires.
Alexis Chaillou, pour vous ?
Les vacances, c'est prendre du temps pour soi, ralentir, prendre le temps de faire les choses. Voilà, un peu l'anti-fast-food, fast-fashion, hyperactivité qu'on peut vivre au quotidien.
Joran Briand ?
Pour moi, rien de très original, mais pour moi, c'est vraiment la déconnexion, le lâcher-prise et surtout de jouer dans la nature.
Et cette année, vous allez faire quoi pour le mois d'août ?
Et alors, au mois d'août, je travaille parce qu'il y a trop de monde sur les plages. Et du coup, je pars plutôt au mois de septembre. J'irai à Lanzarote, qui est une île au nord des Canaries.
Vous avez rencontré Michel Houellebecq, non ?
Ah, je savais pas qu'il partait là-bas en vacances.
Il me semblait qu'il avait une maison là-bas et qu'il avait même écrit. Ah
bah, j'aimerais beaucoup le rencontrer.
Alexis Chaillou ?
Je bosse aussi cet été.
Ah bon, on a que des bosseurs ici.
Heureusement, j'ai entendu parler d'un festival de films documentaires
en ligne. C'est Emmanuel Macron qui va être content.
Qu'on peut voir n'importe où. Donc je vais m'intéresser à ce Greenpeace Film Festival.
Et vous, Philippe Cohen-Grillet ?
Eh bien, moi
aussi, vous travaillez ?
Oui, je vends des préservatifs et des crèmes dépilatoires.
Vous êtes un audio opportuniste. Alexis Chaillou, puisque vous avez commencé par parler de ce film, de ce festival de films organisé par Greenpeace, en quoi consiste-t-il ? Puisque vous allez faire passer votre mois d'août à le regarder.
Alors, pas que ça, mais en partie. Le Greenpeace Film Festival, c'est un festival documentaire écolo où tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout l'été, chaque semaine, on va mettre une thématique environnementale à l'honneur. Donc, par exemple, cette semaine, c'est la biodiversité et la protection des écosystèmes. Et à chaque fois que la thématique sera à l'honneur, on aura 4 films qui seront en accès libre, ça veut dire en intégralité et gratuit, sur le site, que les internautes pourront voir autant qu'ils le veulent et pour lesquels ils pourront voter. Puisque le principe, c'est qu'à la fin de l'été, les films qui ont le plus de votes seront sélectionnés dans une espèce de sélection finale avec 7 films.
Un film par catégorie ?
Un film par catégorie, exactement. Donc il y a différentes catégories qui recouvrent les principales thématiques environnementales. Donc biodiversité cette semaine, la semaine prochaine ce sera le dérèglement climatique, on parlera ensuite d'énergie, on parlera d'alimentation, on parlera de déchets.
Alors,
etc.
Comment ça se passe ? La sélection a été faite ?
C'est Joran Briand qui parle.
Exactement, on a déjà fait la sélection, donc on a choisi les 28 documentaires, on les a mis en ligne. Là aujourd'hui en ligne vous avez en gros les 28 bandes d'annonces, donc vous pouvez déjà voter pour les films que vous connaissez. Et toutes les semaines on en met 4 en accès libre, ça veut dire que vous pouvez les regarder en intégralité. Mais au bout d'une semaine ils disparaissent et il y a d'autres films qui passent à l'antenne, c'est un peu comme Arte plus 7.
Et donc on peut voter pour un seul film ou on peut voter pour les 4 si on aime les 4 ?
Autant que vous voulez. En gros, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire que ou vous votez en me disant que vous l'aimez bien, ou vous votez pas, et donc on prend pas en compte votre vote. Et puis à la fin, on compte les différents votes, et puis on fait la sélection finale.
Et donc avec la sélection finale, là, à ce moment-là, il y a un jury qui va se réunir, ou vous allez les reproposer au public?
Toujours pas.
C'est du En Marche et du participatif jusqu'au bout?
Non, c'est du Greenpeace. C'est en revanche très participatif. Ça veut dire qu'on donne la parole aux sympathisants de Greenpeace, mais aussi largement au-delà, parce que le but, c'est d'aller toucher des gens qui sont pas forcément très sensibilisé à nos sujets, et on donne la possibilité, en gros on met les compteurs à zéro, et puis là on dit voilà, le festival est reparti, vous avez 2 semaines avec 7 films en compétition, et puis celui qui a le plus de votes sera le lauréat final. On le présentera ensuite dans 10 de villes en France, avec d'accord, des projections physiques.
Il gagne de l'argent, le lauréat?
Le lauréat, alors non, justement, il gagne ni matériel ni rien, c'est Greenpeace, hein, donc ça, c'est pas pour faire de l'argent, en revanche ça gagne de la visibilité, on espère.
Et du coup, vous ne créez pas une cérémonie pour que les différents auteurs se rencontrent, qu'il y ait un échange un peu physique, en fait, avec tous ces intervenants ?
Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a prévu. Donc, c'est la première édition, donc on avance aussi, enfin, on marche en avançant. Après, lors de la projection du film vainqueur, évidemment, on invitera les différentes équipes de production et de réalisation avec qui on est en contact.
Ça existait déjà, un festival en ligne, complètement ? C'est la première fois que je vois ça. Alors, je ne vois pas tout.
Il y a beaucoup de festivals d'environnement, enfin il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns on va dire. Il n'y en a pas qui étaient entièrement en ligne, à part celui qui précède le Greenpeace Film Festival, donc qui était le Green Up Film Festival. La fondatrice Anne-Laure est venue nous voir, et donc on a voulu avec elle donner encore plus d'ampleur au festival en le reprenant avec Greenpeace et en lui donnant la visibilité qu'a l'organisation. Première chose. Et deuxième chose, c'est qu'on a essayé aussi en reprenant le festival de préserver l'esprit qu'il y avait dans le festival, ça veut dire toujours orienter solution. Ça veut dire, on connaît tous plein de festivals écolo et autres qui sont un peu désespérants parce qu'on voit tous les problèmes dans le monde, et puis on est un peu dans notre canapé ou d'ailleurs ailleurs en se disant bah ok, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour agir. Et donc là, tous les films, que ce soit d'ailleurs dans les films ou à côté sur le site, on propose toujours des modes d'action pour que les internautes puissent se dire ok, maintenant j'ai compris le problème, je suis au courant, à moi de jouer.
Ce sont à chaque fois des films inédits, ou c'est vous avez fait une sélection comme à Cannes, vous avez un Gilles Jacob qui a parcouru le monde pour trouver les films?
On a Gilles Jacob, on peut dire ça. En revanche, c'est pas des films qui sont inédits, puisque c'est des films qui sont en général déjà sortis pour des raisons tout simplement aussi budgétaires. Donc on récupère des films qui ont déjà eu un cycle de vie, qui sont déjà sortis en général ou au cinéma ou plutôt à la télévision, qui ont déjà été commercialisés. Et puis là, on contacte les boîtes de production, on leur dit est-ce que vous voulez participer à ce festival. Et c'est pour ça que les films en général, ils ont 2-3 ans d'existence déjà.
Et ça, elles ont été plutôt partantes. Vous avez eu quel accueil?
Très bon accueil et aucun problème au fait d'associer Greenpeace, parce que les gens étaient plutôt contents qu'on donne la parole aux réalisateurs qui portaient aussi des solutions et des angles alternatifs, parce que l'idée c'était aussi de choisir des films qui avaient un certain angle, une certaine approche qui n'était pas forcément commune dans nos sujets.
Donc ça peut être des docus qui sont autoproduits
Ouais.
Et donc des formats longs.
Format plutôt long, en général on est sur du 50 minutes ou du 1h30. Donc d'où aussi le côté sympa d'avoir des films qui sont accessibles gratuitement en ligne, chose qu'on trouve assez peu jusqu'ici, et dans lequel on peut s'immerger, on peut prendre le temps de comprendre les problèmes, et c'est aussi pour ça qu'on a favorisé des formats plus longs.
Ce sont que des films engagés, comme on dit, ou...
Engagés, ça dépend le sens que vous mettez derrière. Disons que c'est que des films qui pointent des dysfonctionnements ou qui pointent des questions environnementales, mais toujours encore une fois en disant ok, voilà ce qui se passe. Maintenant, à vous de jouer. Par exemple, sur les océans, je te regarde.
On a un surfeur, allons-y.
En disant ça, voilà, on a un film aujourd'hui donc, qui est en ligne cette semaine.
Et on a un marin aussi.
Bon, voilà, parfait, bon exemple. On a un film qui s'appelle Quand les océans deviennent acides.
Ouais.
Et qui montre, c'est assez intéressant, une région en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est particulièrement exposée au gaz carbonique et donc qui est particulièrement acide. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est en gros ce que seront les coraux dans 50 ans. Donc on a un peu une image à l'avance de ce que seront les coraux dans 50 ans si on continue comme ça. Et je ne veux pas vous spoiler ou vous divulgâcher, comme disent les Québécois, mais ce n'est pas très beau à voir.
Et pourquoi vous avez choisi de le faire en ligne? Et pourquoi pas louer une salle de cinéma à Paris pendant, je sais pas, qui vous aurait laissé la séance de 12 heures tous les jours pour faire un festival?
Parce qu'on est super ambitieux et qu'on a envie qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui regardent nos films. Et plus sérieusement aussi, parce que c'est pendant l'été et qu'on veut que les gens puissent y accéder un peu n'importe où. Depuis chez eux s'ils partent pas en vacances, depuis leur lieu de vacances s'ils partent en vacances, depuis l'étranger s'il y en a des francophones ou les anglophones, puisque le festival est en deux langues, français, anglais, et tous les films sont en deux langues également, français ou anglais. Donc voilà, on a comme ça une exposition que l'on espère encore plus grande.
Et vous n'êtes pas L'Oréal, enfin, je n'aurais pas dû dire de marque, mais vous n'êtes pas une grande multinationale, enfin, vous êtes une multinationale associative, on va dire. Est-ce que, comme les multinationales, en faisant ça, vous voulez aussi promouvoir votre action, l'action de Greenpeace? Donc, est-ce que les films que vous avez choisis sont en lien avec, avec vos actions actuelles, par exemple les océans qui sont...
Ah bah évidemment, c'est une évidence, et c'est aussi un moyen pour nous de faire connaître notre travail. Par exemple sur les océans, on pousse pour qu'il y ait de plus en plus de sanctuaires marins, qui est un petit peu la seule solution aujourd'hui dans la communauté scientifique pour résoudre les différents problèmes, j'insiste sur les différents problèmes que connaissent les océans, c'est d'avoir des zones qui sont préservées, qui sont sanctuarisées, où il n'y a aucune activité humaine qui s'y tient. Donc évidemment, c'est pour faire le lien avec notre sujet, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de parler d'autres sujets, mais avec plaisir.
Et donc pour ce festival, vous avez quoi? 4 thématiques, c'est ça?
On en a 7 avec 4 films par thématique, donc 7 fois 4, 28 films.
D'accord.
Qui seront donc diffusés pendant tout l'été sur un site spécial, donnez-nous le nom du site.
Alors sur le site greenpeacefilmfestival.org, et j'invite tous les auditeurs à s'inscrire à la newsletter. Pourquoi? Parce que tous les lundis dans votre boîte mail, vous avez donc les 4 films de la semaine à voir en intégralité, et vous pouvez choisir d'en voir aucun parce qu'il ne vous intéresse pas, 1, 2, 3 ou 4.
Et dans ces films, c'est juste un constat dramatique ou ça aussi ça apporte des solutions justement?
Ça apporte des solutions, et je vous donnerai un exemple d'un film qui est sorti en 2015 qui s'appelle Enquête de sens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui avait fait une sortie ciné aussi, qui l'avait vraiment orienté solution. Mais ça ne nous empêche pas de pointer des problèmes. Je vous cite un autre film de Marie-Monique Robin que vous devez connaître, qui s'appelle Sacrée croissance. Et pourquoi je parle de celui-là? Parce que quel que soit le sujet duquel on parle chez Greenpeace, très souvent, la racine du problème se trouve dans l'idée qu'on peut exploiter les ressources indéfiniment et que la croissance, et je dirais plus loin, le fait de monétiser l'exploitation des ressources, nous conduit souvent à des pratiques qui sont extrêmement dommageables pour l'environnement.
Vous êtes responsable du web, vous avez créé des liens sur les réseaux sociaux, sur ce festival, on peut retrouver les films, on a de l'information, on peut...
Tout à fait, donc il y a une page Facebook dédiée au festival.
Allez-y, redonnez le nom, allez-y, c'est pas grave.
Bon, Greenpeace Film Festival, sans surprise. Et par ailleurs, sur les canaux de Greenpeace, on en fait évidemment la promotion. Via cette newsletter qui arrive tous les lundis dans votre boîte mail si vous êtes inscrit, et puis via nos canaux plus traditionnels chez Greenpeace. L'idée, c'est vraiment de faire savoir que ce festival existe et que les solutions sont présentes.
Là, on est au tout début, hein, ça a commencé cette semaine. Vous êtes content du nombre d'inscrits? Je ne vais pas vous demander combien, parce que vous ne me le direz pas. Donc,
je peux vous dire, on a 10 000 inscrits sur la newsletter là, pour l'instant.
C'est
donc
pas mal.
On est plutôt content. Après, c'est un début, donc on compte sur cette émission et sur tout ce qu'on va faire pour que de nouvelles personnes s'inscrivent.
Mais en plus, ça va, plus il y aura de monde, donc les derniers vont être favorisés par rapport au premier, non?
Eh bien non, parce qu'en fait on fait un vote par catégorie. Donc ça veut dire que c'est le meilleur film, en tout cas le film le plus populaire dans
par
chaque
semaine,
catégorie,
ouais.
qui remporte et qui accède entre guillemets au deuxième tour du festival.
Et à la fin des fins, donc les 7 films qui vont être sélectionnés, je vous ai peut-être posé la question, vous m'avez peut-être répondu, j'ai peut-être oublié, c'est l'âge, j'ai bu de l'eau polluée, et ça s'attaque les neurones paraît-il. À la fin des fins, qui décidera du meilleur? C'est les mêmes internautes? C'est un jury?
Ouais, c'est vous, donc il n'y a pas un seul professionnel dans ce festival. Alors si évidemment
il y a une
derrière.
Palme sur les 7 hein, après.
Il y a une palme, c'est-à-dire qu'il y a un lauréat. C'est quand même un festival, donc il y a un lauréat. Alors, je ne vais pas dire que c'est la médaille en chocolat, parce que ce serait assez négatif, mais disons que c'est assez symbolique comme prix, si ce n'est la projection qu'on fait dans une dizaine de villes, et où on va mobiliser l'intégralité du réseau Greenpeace, qui est maillé dans tout le territoire, pour mobiliser et faire connaître ce film.
C'était Time de The Alan Parsons Project, une chanson qui a oula, déjà 37 ans, ça sent les premiers synthétiseurs, les booms et les mauvais déodorants. Et les mauvais déodorants. Vous pouvez surtout entendre cette chanson à la fin d'un film chilien qui s'appelle Une femme fantastique, actuellement sur vos écrans et que l'on vous conseille ardemment.
Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Alexis Chaillou, on parlait avec vous du Greenpeace Film Festival, c'est ça, dans cette séance-là ? Je ne me suis pas trompé, bravo. Philippe Cohen-Grillet et oui. Joran Briand, ça vous intéresse un festival comme ça ? Vous trouvez qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de festival en ligne ?
Ah, moi, je trouve que c'est vraiment très bien parce que j'ai toujours un petit problème avec les films documentaires à la télévision qui en général, m'ennuient prodigieusement. Et au cinéma, c'est vrai que j'y vais plutôt pour des fictions. En revanche, sur le web, c'est plus pour moi un outil d'information. Et donc, j'aurais beaucoup plus tendance, c'est vrai, à me diriger vers des documentaires sur Internet. Bon, c'est vrai qu'un format de 50 minutes, c'est peut-être, mais justement, ça permet de le voir, de se poser, de revenir un peu plus tard. Et puis, je pense que ça permet surtout des échanges entre les internautes qui peuvent également
commenter sur le site. Ouais.
Et ça, je pense que voilà, c'est ce côté interactif qui peut être vraiment très, très intéressant et enrichissant.
Donc, j'ai gagné un follower.
Voilà. 40 002, super. Paul-Henri Bison, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes réfugié loin de Paris, m'a-t-on dit, où vous écrivez votre second roman, ce que je trouve très bien, puisque le premier n'est même pas encore sorti. Je vous entends très très mal. Il s'appelle La Louve et il sera publié le 31 août chez Gallimard. Mais je crois que c'est... Non, c'est bon, voilà, c'est parfait.
Bonsoir, Polo.
Ah, évidemment, il y a des gens qui se connaissent.
Bonsoir, Joran.
Vous savez que vous connaissez, on en parlera tout à l'heure. Vous avez travaillé ensemble sur un projet qui s'appelle West is the Best.
Exactement, sur le surf et le design.
Je reviens à votre roman La Louve chez Gallimard, donc qui paraîtra le 31 août. À ma connaissance, c'est le premier roman qui oppose permaculture et culture intensive. Alors, d'où vous est venue cette idée d'écrire un roman entre ces deux univers paysans, entre l'ancienne et la nouvelle paysannerie ?
Moi, j'ai grandi à la campagne.
Ça se sent tout de suite. Moi-même grandi à la campagne, ça se voit tout de suite.
Et donc, j'ai vu le monde paysan en fait, évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alternative en réalité. C'était l'agriculture conventionnelle qui dominait et on ne se posait pas trop de questions. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait des conséquences, qu'elles n'étaient pas forcément bonnes, mais qu'il fallait changer, que c'était compliqué. Alors, la permaculture, c'est assez vaste puisque c'est un ensemble de techniques, mais c'est aussi une autre philosophie, c'est une autre façon d'envisager la culture, de replacer l'homme au cœur d'un écosystème. Mais ça nécessite beaucoup de changements et ça va pas sans certains heurts.
Mais vous ne répondez toujours pas à ma question, c'est comment vous avez eu l'idée d'en faire un roman ? Alors certes, vous comprenez l'opposition entre deux frères, qui est un truc qui marche toujours très bien, surtout quand le roman s'appelle La Louve, on pense à deux frères très connus, mais comment vous avez eu l'idée d'en faire la tension romanesque de votre livre ?
Mais c'est-à-dire que c'est des problématiques qui intéressent, qui sont généralement traitées dans des ouvrages spécialisés, mais qui sont en réalité très... pragmatiques et qui sont des réalités qui sont du quotidien, donc les traiter par le roman, c'était une façon pour moi de les mettre de les donner à lire au grand public, voilà. Alors, c'est venu un peu comme ça en fait, c'était le décor et voilà.
Et donc ces deux frères, hein, qui s'inscrit dans l'agriculture traditionnelle, puis un autre qui est un peu un personnage, comment dire, une sorte de personnage très 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 d'un bloc, une sorte de, avec beaucoup de panache, qui lui décide de partir après un drame familial dans une autre direction. Ça vous intéressait aussi de raconter une opposition entre deux frères ?
Exactement. Alors c'est vrai que Camille, en l'occurrence de Benjamin, est un grand idéaliste. Et donc l'opposition avec son frère m'intéressait beaucoup. C'était une histoire que j'avais envie de raconter depuis longtemps. et le mettre et utiliser justement l'agriculture traditionnelle et, le, et la permaculture pour dramatiser, c'était, j'ai trouvé un outil intéressant.
D'autant que vous êtes malin et que vous ajoutez un deuxième niveau d'opposition, puisqu'il y a une, aussi une opposition entre Paris et la campagne dans votre livre. Il y a tout l'univers parisien et ce qu'on fait de cette permaculture à Paris et la réalité du travail de Camille, le paysan.
Exactement. Exactement. Vivant à Paris, je me suis rendu compte assez vite que Paris est une capitale un peu hors sol, c'est-à-dire qu'elle est assez éloignée de la province. Et les problématiques paysannes, finalement, elles sont traitées sur un biais commercial ou presque de... Enfin voilà, par une certaine population, mais le quotidien vraiment des paysans est assez distant, en fait.
Vous avez un
assez éloigné.
Je vais faire un tout petit peu de lecture parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Vous dites un moment, enfin vous écrivez un de vos personnages dit un moment et on a l'impression que c'est vous qui parlez. Vous me direz si c'est ce que vous pensez. Vous dites la bonne blague, tout le monde, les types sont juste trop cons, ils ont du mal à s'habiller chez Uniqlo, habitent des petits appartements de merde qu'ils sont obligés de louer sur Airbnb pour boucler les fins de mois, mais sont capables de s'extasier en claquant 80 euros pour manger un ceviche dans un rad du 11e. Où ils ont l'impression d'être à l'égal des Richards qui viennent de Saint-Germain pour s'encanailler. Le fooding est un snobisme de pauvres, mais pas tout à fait. Ils ont de quoi manger, alors la bouffe a remplacé la poésie, la culture, la télévision. C'est même en train de devenir un nouveau showbiz, et les fils de famille comme Steph et Jonathan l'ont très bien compris. C'est assez radical, c'est vous ça ?
C'est-à-dire c'est le quotidien de notre génération. C'est vrai qu'on a grandi, le fooding, la bistronomie, la nouvelle gastronomie, c'est vraiment partie de notre vie, quoi. Et tout ça est... à une couleur un peu paysanne, un renouveau de... Mais finalement, ça reste des idées, enfin un peu des mots en l'air, quoi.
Et vous aimez Balzac ?
J'adore Balzac.
Parce que
j'ai grandi avec Balzac.
C'est ça, parce qu'il y a la scène de la vie de campagne, les scènes de la vie parisienne. Il y a un personnage qui est un peu vautrinesque aussi, je ne sais pas si on peut dire ça, en quelque sorte.
Oui, oui. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup ce que je voulais vraiment traiter, c'était ce rapport entre la campagne et Paris. Donc ce va-et-vient permanent, voilà. Et puis cet éloignement de plus en plus, je trouve, que je ressens moi en tout cas, entre Paris et la France. Presque comme si la France était un pays étranger à Paris.
Voilà. Et j'ai oublié de dire qu'il y a un troisième personnage en fait qui va servir de pivot entre les deux frères. Et une question technique que je voulais vous poser. C'est pourquoi d'emblée vous le posez comme un escroc ? On a même pas le plaisir de découvrir qu'il est malhonnête dès le début, vous nous le dites.
Oui, justement parce que je voulais que les gens qui finalement sont impressionnés ou qui tombent dans l'illusion, c'était montrer que l'imposture parfois elle est tellement évidente que les gens ne la voient même pas en fait. Et donc je voulais d'emblée afficher ce personnage comme un personnage un peu noir, louche, mais il n'empêche qu'il arrive quand même à mener à bien son imposture, enfin pas pour longtemps, mais...
Et je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que c'est avec la complicité des journalistes, on en a un ici qui ne va pas être content.
Non, c'est pas vraiment la complicité des journalistes, c'est la complicité de tout un monde qui attend de quelque chose, qui attend que les choses changent, et qui finalement met de la bonne volonté, et ils se font avoir, quoi.
Il y a un lieu magique, une sorte de caverne aussi, j'en dis pas plus, en plein cœur de Paris, une ancienne usine de bougies qui a l'air d'être un lieu merveilleux. Moi, j'aimerais juste savoir s'il existe vraiment, même si vous ne me dites pas où il est, est-ce qu'il existe ?
Ça, je laisse au lecteur le soin.
Ah non, vous n'avez pas le droit. Parce qu'on rêve tous de le découvrir. Quand un des personnages ouvre une porte et découvre cette galerie assez magique, on y est, donc on aimerait savoir s'il existe vraiment. C'est un peu comme un passage souterrain dans Livre pour enfants. Pardon, je parle beaucoup.
Exactement. En fait, c'est un passage entre deux immeubles qui est un petit peu fantasmé, un petit peu réel. Voilà. Mais ça, il faut que ça reste quand même une petite chasse au trésor.
D'accord. Quand même, à la fin, l'histoire se dénoue aussi grâce à un journaliste. Alors, c'est quand même un journaliste qui quand même sauve l'histoire. Donc, vous croyez quand même encore à la presse ?
Ah, moi, totalement, bien sûr, bien sûr.
C'est peut-être plus un journaliste comme... Pardon.
Non, mais je pense que la presse, notamment, enfin, peuvent subir des pressions, mais qui sont liées à son modèle économique. Mais ça, il n'empêche que les gens qui travaillent sont très compétents et au contraire doivent être de plus en plus libres et continuer d'écrire et d'agir le plus possible.
Il y a quelque chose de très beau dans votre livre et on terminera par ça. Il y a d'abord un très beau personnage féminin qui s'appelle Victoire, elle ne l'a sûrement pas volé. Et il y a aussi un personnage, un mort, et qui est aussi le mort qui finalement va tout résoudre. Vous croyez-vous au pouvoir des absents qui sont toujours présents ?
Absolument, absolument. Oui, pour moi, c'est vraiment la vie et une superposition de plusieurs époques. Et donc, on est sans arrêt en rapport avec ceux qui nous ont précédés et on doit penser à ceux qui vont nous succéder aussi. Et en plus, ce mort dans ma vie a une existence puisque c'était un ami qui s'est suicidé trop tôt. Et ces suicides-là presque sont des marques des changements d'époque. Et donc, les morts sont très importants. Ils nous apprennent beaucoup de choses.
Et ce que vous venez de dire, c'est qu'ils nous aident aussi à aller vers l'avenir. Donc on revient aussi à la manière dont on cultive et la manière dont on traite la terre. Donc finalement, tout se tient assez bien. Hein.
En fait, le cœur du roman, c'est vraiment le sol. C'est vraiment le rapport au sol. C'est très très important et je pense qu'on l'oublie malheureusement et il faut qu'on revienne à ça.
On est plutôt là aujourd'hui avec des gens qui vont sur l'eau et Joran, vous connaissez, vous avez peut-être déjà lu le livre, c'est peut-être difficile pour vous de vous demander un avis.
Non, moi j'ai lu la première version. Alors ce qui est marrant, c'est que le passage que vous avez lu, c'est l'un des passages que j'ai préféré. Je me suis marré d'ailleurs en lisant ce passage-là parce qu'il y avait un côté un peu miroir dans notre vie de parisien. Et c'est le premier roman de Paul Henry et ça raconte aussi son histoire. J'ai dévoré le bouquin et c'était très chouette de rentrer dans cette histoire.
Philippe Cohen-Grillet, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour, je pense qu'on peut le dire, vous avez travaillé pour le Canard Enchaîné notamment.
Oui, toujours.
Donc
et notamment, enfin pas que, Paris Match, Portugal Radio.
Vous pensez que par vos enquêtes, vous pouvez changer le monde?
Non, certainement pas. Je pense que nos enquêtes sont nécessaires.
Elles
sont absolument nécessaires.
Démasquer des impostures, quand même, ça vous parle ?
Oui, non, mais le journalisme d'investigation, théoriquement, ça devrait être un pléonasme. On est là, bien évidemment, non pas obligatoirement pour porter le fer dans la plaie et pointer ce qui ne va pas, mais bien évidemment pour essayer d'enquêter et de mettre en exergue les points qui peuvent poser problème. Maintenant, c'est pas nous qui apportons les solutions.
Paul-Henri Bison, merci d'être venu avec nous. Bon courage pour l'écriture du deuxième. On est impatients de vous lire. Merci à vous, en tout cas.
Merci beaucoup.
Et bon séjour. Merci.
Radio Campus Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur Radio Campus Paris.
Philippe Cohen-Grillet, bonjour. Rebonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, justice, police. Et que faisiez-vous le 16 octobre 1984 ?
J'avais un peu plus d'un an, donc j'ai un alibi.
Non, je vous pose la question parce que donc, c'est la question que se posent en ce moment beaucoup de gens dans les Vosges, puisqu'on essaie de reconstituer l'emploi du temps. Ben donc d'une histoire qui a, attention, je vais faire du calcul mental en direct, 33 ans.
C'est ça, un tiers de siècle.
Donc je me demandais qui savait ce qu'il avait fait il y a 33 ans.
Ben apparemment, des magistrats pensent qu'on peut... Enfin moi, si je vous demande ce que vous avez mangé jeudi, il y a 8 jours au déjeuner, voilà. Eh bien, il y a des magistrats qui donnent des conférences de presse, il y a des généraux de gendarmerie qui se targuent d'humilité, je les cite, et qui pensent qu'on peut demander à des personnes de 72 ans ce qu'ils faisaient le 16 octobre 1984 aux alentours de 17h30.
Mais ils ont un logiciel magique quand même.
Anacrim. Alors Anacrim, c'est un
logiciel qui est censé tout résoudre. Alors quand même, je rappelais quand même, parce que là je suis parti tout seul, mais c'est quand même le 16 octobre 1984, c'est le jour où Grégory Villemain a été enlevé et tué et retrouvé mort dans la Bologne.
C'est le jour où son corps a été découvert.
C'est le jour où il a été découvert, donc il a peut-être été tué avant, on ne sait pas.
On ne sait pas, on ne connaît pas la date ni d'enlèvement ni du décès.
Donc là, il y a un logiciel qui arrive, on dit c'est logiciel américain, moi ça me fait penser à Jacques Tati, logiciel américain, c'est mon oncle. C'est vraiment un sujet très triste, mais on a l'impression qu'on a surinvesti ce logiciel.
Anacrim, c'est un logiciel qui existe et qui est utilisé depuis une dizaine d'années, qui est extrêmement performant, extrêmement intéressant, parce que sur un dossier comme le dossier Grégory, on est en face de dizaines de milliers de pages. C'est extrêmement complexe, extrêmement touffu. Et le logiciel Anacrim, on rentre, donc il y a une intervention humaine, les différentes données, les emplois du temps des protagonistes, des témoignages, des lieux, des dates, des termes précis qui peuvent être utilisés dans des courriers de revendication, des lettres anonymes. Et le logiciel mouline, entre guillemets, un petit peu tout ça, et donne une espèce de modélisation du réel. D'ailleurs, voilà, avec des algorithmes, il montre une espèce de cartographie et il peut faire apparaître, en effet, des contradictions, des points d'interrogation. Et à partir de là, parce que, encore une fois, ce n'est qu'un outil, il appartient aux enquêteurs sous l'autorité du juge d'instruction, de mener de nouvelles investigations à la lumière de ce qu'a ou non apporté le logiciel. Voilà.
Parce qu'il avait été un peu présenté dans la presse et par certains de vos confrères, on ne va pas faire d'amalgame, ouais. tous ne sont pas les mêmes, mais un peu comme une sorte de super Cluedo qui résout les problèmes. Ah, c'est surtout pas ça.
Ah non, ce n'est absolument pas ça. C'est un outil.
C'est un outil, d'accord.
C'est juste un outil dans lequel on rentre des données, il mouline les données et il ressort après une espèce de cartographie d'une affaire qui permet éventuellement de faire apparaître des points d'interrogation sur lesquels les enquêteurs doivent mener des investigations.
Et donc ramener des preuves.
Ramener
des preuves pour le juge d'instruction, voilà. Pour pouvoir éventuellement mettre quelqu'un en examen, voilà. Et aller au tribunal.
On n'est pas encore dans Minority Report, et effet, on ne condamne pas des gens sur la foi de ce que suppute un ordinateur, de ce qu'ils pourraient faire ou de ce qu'ils ont pu faire éventuellement il y a 33 ans.
Pour vous qui êtes spécialiste de ces questions-là par rapport à la graphologie qui... J'espère que j'aurai de problème avec personne qui, pour moi, quand même, est très proche du charlatanisme.
Ah non, mais c'est pire que ça. Pourquoi pas les sorciers vaudous pendant qu'on y est. Je vous rappelle tout de même que ce sont les graphologues qui ont dit que Dreyfus était coupable. Ouais. Non, mais
est-ce qu'il y a un progrès avec ces logiciels par rapport à la graphologie?
Aucun. Il y a eu des méthodes qui ont évolué en graphologie. C'est de l'esbrouf pur et simple. C'est absolument n'importe quoi. Sur le dossier Villemain, disons les choses clairement, il y a 2000 courriers imputés à plusieurs... Corbeau. Une de ces lettres a été tout d'abord imputée par un collège d'experts à Bernard Laroche. Bernard Laroche était innocent, il a été mis en examen, enfin, inculpé, disait-on à l'époque. Il a été assassiné innocent, il est mort innocent, il n'y a pas à sortir de là. Cette même lettre a été imputée par trois collèges de trois experts différents, graphologues, à Christine Villemain, la mère de Grégory, qui a été lavée de tout soupçon
depuis,
En 1993. La cour d'appel de Versailles. Et maintenant, cette même lettre est attribuée de façon probable donc la grand-tante de Grégory Villemain. Alors, on peut, sur la base de probable, sur la base d'expertise qui sont totalement fantasques et grotesques, embastiller des gens. On est loin de la preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas de traces ADN. Les expertises graphologiques n'ont absolument aucune valeur. Elles sont toutes contredites et contradictoires.
Il y a des gens qui ont déjà été condamnés sur la base d'expertise graphologique?
Non, pas sur...
Pas que ça.
C'est impossible.
Ça peut être un début. On va revenir au rôle de la presse très vite. Donc vous aviez un an, mais peut-être vous avez lu des livres sur le sujet.
Ah, beaucoup.
Qu'est-ce qui explique que la presse se soit aussi vite déchaînée sur cette affaire-là?
Parce qu'elle contient tous les ingrédients, encore aujourd'hui. L'affaire Grégory, elle dépasse malheureusement les victimes, puisqu'il y a deux assassinés et un suicidé. Hein, deux assassinés, ce petit enfant, Bernard Laroche, et le juge Lambert, il y a maintenant 2 semaines, suicidé. Cette affaire-là transcende à la fois ses protagonistes, elle fait partie maintenant de la mythologie de l'histoire du fait divers et judiciaire française. On a tous les éléments, on a les haines recuites d'une famille au fin fond des Vosges, on a un petit enfant qui meurt dans des circonstances atroces, on voit des photographies de ce petit enfant le corps de ce petit Grégory tiré de la Vologne, qui s'est publié à l'époque, ça serait inimaginable aujourd'hui. Il faut quand même se rappeler du choc que ça a provoqué. On a ce corbeau qui inonde pendant des années toute la vallée de lettres de dénonciation et d'injures, et on a des rebondissements incroyables. Bernard Laroche qui se fait assassiner par le père de Grégory, puis la mère qui se fait embastiller, puis Libération qui dépêche sur place Marguerite Duras, qui nous fait une pleine page pour nous dire que finalement Marie-Christine Villemain, sublime, forcément coupable,
ça a vraiment existé, c'est pas une blague, hein. On a du mal à y croire aujourd'hui.
Ah oui, non mais on a atteint des sommets dans le
mais
délire.
Pourquoi la presse délire à ce moment-là?
Mais parce que c'est fascinant, parce qu'encore une fois, c'est un fait divers qui dépasse ce qu'il est en lui-même. C'est la mort tragique et abominable d'un enfant. Ça arrive plusieurs fois par an.
Ouais, c'est ça, oui.
Bon, simplement, là, ça a pris une ampleur qui, voilà, et tout le monde maintenant a sa propre conviction. Tout le monde, encore, quand bien même demain la justice donnerait une thèse ou une nouvelle thèse et parviendrait à condamner un ou des coupables, il se trouverait encore aujourd'hui des gens, j'en suis persuadé, pour être persuadé que telle ou telle personne est véritablement impliquée ou est véritablement coupable.
Vous pensez que les journalistes ont gêné l'enquête ?
Ah, c'est pas qu'ils ont gêné, c'est qu'ils ont fait bien pire que ça. Moi, j'ai pas la réputation d'être corporatiste, alors je peux même donner des noms et des exemples.
On va éviter.
C'est comme vous voulez.
Je préfère.
Y a un journaliste.
Ils sont pas là pour se défendre, donc on va éviter.
Non, mais ils continuent à parader, donc ils se reconnaîtront. Quand un journaliste a été un soir avec un enregistreur, une cassette à l'époque, faire écouter au couple Villemain les PV d'audition de leur cousine Muriel Boll qui accusait Bernard Laroche, et que ça a monté un petit peu en pression.
Ce qu'on peut imaginer,
le père de Grégory, que le lendemain il prend un fusil qui va abattre Bernard Laroche, j'aimerais pas être à la place de ce confrère. Parallèlement, aujourd'hui, et là c'est quand même assez grave, on est en face de quoi ? Depuis un mois et demi, y a une thèse qui est ancienne, qui est une construction intellectuelle et qui, encore une fois, ne repose pas sur des éléments, qui est présentée, qui pointe la culpabilité, l'implication de Bernard Laroche et d'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui mises en examen. Pour appuyer cette thèse-là, comme il n'y a pas d'éléments autres que cette grotesque analyse graphologique, on essaye de faire pression sur les personnes en les mettant en incarcération et en les mettant en examen. Ils ne craquent pas, ils ne disent rien. Alors, on nous sort, et on sort opportunément, les fameux carnets secrets d'un ancien juge d'instruction. On les exhibe à la télévision et sur une chaîne d'information continue, on mène l'instruction en direct avec des avocats de toutes les parties qui sont... voilà. Et on a, au milieu de tout ça, le procureur général Bosque qui tient deux conférences de presse et viole allègrement la présomption d'innocence et le secret de l'instruction pendant ces conférences de presse. C'est extrêmement dangereux et je rappelle que malheureusement, le juge Lambert...
Le fait qu'il envoie la lettre de son suicide à un journal, c'est la boucle qui est bouclée là ?
Alors, il a envoyé six lettres, pardon, dont une en effet à l'Est républicain. Pour une très bonne et simple raison, c'est que le juge Lambert savait très bien que s'il laissait ses courriers sur sa table, à son domicile, ils étaient immédiatement saisis par les enquêteurs, alors que là, eh bien, cette lettre-là, elle a été diffusée par la presse et la justice l'a saisie, mais au moins elle est publique.
Yeah.
travers là, c'était Dead Crush, c'était aussi un crush de ma part, un extrait du dernier album de Alt J qui s'appelle Relaxers.
Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Alexis Chaillou, qu'est-ce que vous inspire ce qu'on vient de dire là sur cette affaire Villemain ? Vous en êtes très loin, peut-être à Greenpeace, je ne sais pas.
Alors l'affaire Grégory en elle-même, absolument rien. En revanche, je pense que c'est important effectivement de rappeler qu'il y a aussi des journalistes qui font leur boulot. Et je pense sur nos sujets, pour faire le lien avec la permaculture ou au modèle agricole, je pense à Stéphane Foucard qui vient de sortir une enquête assez incroyable sur ce qu'il appelle les Monsanto Papers, qui démontre tout ce que fait Monsanto un peu en coulisses. En gros, l'article s'appelle « La guerre du géant des pesticides contre la science ». Donc c'est vraiment là où les profits passent avant la science et la santé humaine. Et un autre exemple peut-être qui serait le bouquin d'Isabelle Saporta qui s'appelle « Du courage oui. », qui à la fois montre les impasses du modèle industriel conventionnel avec l'élevage intensif où on gave les bêtes d'antibiotiques, avec la monoculture aux pesticides, où on importe du soja OGM pour nourrir les bêtes, etc. Mais qui montre en même temps aussi que les solutions existent, que les agriculteurs proposent qu'on les forme à la permaculture, à l'agroécologie, et qu'on les remette un petit peu au centre de la politique agricole. Ça marche, ça existe, et pour peu qu'on parle les yeux dans les yeux à des gens, ça fonctionne.
D'être formidable, vous faites le lien entre l'affaire Grégory, la permaculture, donc qui était le sujet de la Louve, et on va, il manque que le surf avec vous, Joran Briand. Vous êtes d'abord designer, c'est votre métier.
C'est
et
ça.
Quand est née votre passion pour le surf ?
Très tôt, dès l'âge de 15 ans en fait. Enfin, mais un peu avant, je faisais du skateboard, je fantasmais toujours sur les vagues dans des magazines. Et en fait, je ne pensais pas qu'à côté de chez moi, donc en fait, je suis né en Bretagne Sud à Vannes, qu'à côté de chez moi, à Quiberon, il y avait des vagues qui déroulaient. Et en fait, c'est un copain qui un jour m'a emmené à la plage, il m'a dit « viens, on va surfer ». Et j'ai dit « mais c'est possible, on n'est pas à Biarritz ». Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des vagues à côté de chez moi.
Vous vous rappelez des sensations la première fois ?
La première vague, ouais, on s'en rappelle. C'est-à-dire que quand on fait le take-off, quand on démarre sur la vague, en fait, quand l'énergie de la vague vous prend et vous emmène jusqu'au bord de la plage, on s'en rappelle, quand on la sort vraiment.
On se rappelle de la sensation et c'est celle-là qu'on cherche toujours encore
c'est ça.
Et après.
Ouais, ça devient
c'est
la,
cette première fois qu'on recherche toujours et encore.
Je pense que oui, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est vraiment très addictif, cette sensation d'être porté par le mouvement et puis de faire une chorégraphie plus ou moins périlleuse sur cette vague. C'est toujours un moment très agréable.
Vous parlez de surf, comme designer, vous dites être inspiré par la mer beaucoup. Je sais que vous aimez beaucoup les objets.
Ouais, ce que j'aime à dire pour la petite histoire, c'est qu'à l'agence, on essaie d'éroder les objets. C'est-à-dire, je pense que le travail du temps fait des belles choses. Et c'est vrai que bon, bah, moi, étant né au bord de l'eau, j'ai toujours vu des algues, des bateaux, des formes qui ont été érodées par le temps, qui ont été aussi pensées par l'homme. Et ces formes-là m'ont toujours un peu inspiré dans mon dessin. Et voilà, j'aime à dire ça, qu'à l'agence, on essaie d'éroder les objets.
Mais qu'est-ce que vous faites à Paris, malheureux ?
Et ben justement, le problème, c'est que la France est centralisée. Et c'est vrai que dans notre métier, une grosse partie en gros, du business se fait quand même sur Paris. Et justement, dans West is the Best 2, le livre...
Dont on avait parlé, mais allez-y.
Voilà, raconte un peu justement différentes personnes, différents créatifs qui ont réussi à trouver un équilibre entre cet aimant parisien et le surf qui se pratique sur la côte atlantique.
Donc dès que vous pouvez, vous partez, vous ?
Alors moi j'ai de la chance encore d'avoir des parents qui habitent en Bretagne, donc j'ai fait
toujours à Quiberon.
Depuis mes études parisiennes, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et la Bretagne. Et puis là, très récemment, j'ai acheté un hangar vraiment au bord de l'eau, hein, qui est sur le caillou de la Côte Sauvage. Et on va faire développer en fait un atelier de recherche et de prototypage au bord de l'eau, au bord de la vague.
Donc vous avez créé vous avez travaillé là-bas ?
Ouais, enfin on garde nos bureaux sur Paris. Et puis on développe un autre atelier avec plus d'espace pour rechercher, maqueter dans un contexte idéal.
Mais donc maqueter des planches ou d'autres choses ?
Non, de tout, des objets, du mobilier.
Toujours en vous inspirant de ce que la nature érode, de ce que l'océan érode alors ?
Non, ça c'est pour la petite histoire, pas tout le temps, chaque projet...
Je n'ai jamais raconté une petite histoire à un journaliste qui s'en empare.
Non, mais chaque projet a ses problématiques, son contexte. On va dire que nous, dans notre travail de designer, on essaie d'améliorer le quotidien des gens, de raconter des histoires. Et on ne s'inspire pas tout le temps de l'océan.
Alors, revenons-en à cette revue, là, West in the Best, qui est...
Comment est-elle née ?
Et ben justement, elle est née d'une amertume, c'est-à-dire d'avoir toujours souffert en fait d'avoir cette distance entre Paris et la côte. Et je voulais rencontrer des créatifs qui, eux, ont réussi à créer un équilibre entre cette distance. Et donc, je suis parti à la rencontre, en tout cas pour le West is the Best numéro 2, parce qu'il y a eu un numéro 1 en Californie.
Qui était sur la Californie, oui.
Je suis parti à la rencontre de différents créatifs. Ça va du designer au danseur étoile, à même un boulanger, qui, ont réussi à trouver leur équilibre. Alors, je peux donner des petits exemples. Il y a par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup, Christophe Vasseur, qui est boulanger, qui a sa boulangerie dans le 10e. Lui, il ferme carrément le week-end. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boulangers qui arrivent à fermer le week-end.
Il est rue Marseille, c'est lui.
Non, c'est il est rue Yves Toudic, je crois.
Oui, d'accord. Ouais. Ouais.
Et donc sa boulangerie qui est du pain et des idées, le nom de la boulangerie. Et donc lui, là, il veut faire sa propre farine et faire pousser son propre blé au Pays Basque. Alors, pas parce que le terroir est meilleur au Pays Basque qu'ailleurs, mais c'est un prétexte pour aller surfer. Et je trouve ça intéressant de voir comment ces gens en fait, s'organisent sans se mettre en danger, et ils peuvent lier ces deux passions. Parce que c'est vrai que la passion du surf demande beaucoup de temps, c'est très exigeant.
C'est marrant, quand vous en parlez, on a presque l'impression d'une drogue et vous avez peur de tomber dedans et de ne plus pouvoir vous en sortir.
Mais c'est justement la problématique, c'est-à-dire que c'est tellement addictif que des fois, moi, plusieurs fois, je me suis dit « allez, j'arrête tout, je monte une cabane en face de l'eau et j'arrête tout », mais c'est dangereux de se marginaliser. Et je trouve que c'est intéressant cette dualité qu'il peut avoir justement dans notre travail créatif et à la fois cette passion pour cette discipline.
Et est-ce que vous pensez qu'elle a changé votre manière de créer ?
Ah oui, ça c'est évident. Je pense d'observer, de contempler, de prendre le temps, de s'oublier.
D'être immergé dans la nature, d'être complètement dans la nature aussi.
En fait, pourquoi le surf est additif ? Je pense que c'est une grande source de bonheur. C'est-à-dire qu'on joue dans et avec la nature. Et on s'oublie totalement et on contemple. Alors, c'est vrai que regarder des surfeurs dans l'eau, ils passent 90% de leur temps à regarder l'horizon. Le temps de surfer sur une vague, c'est peut-être 10% de la session, quoi. Donc après, ça dépend des niveaux. Mais en tout cas, pour moi, qui a un niveau, on va dire, moyen, c'est 10% de mon temps, quoi. Non, mais donc du coup, on apprend à ces moments de silence, à contempler et à, je pense, à méditer tout simplement.
C'est une pratique solitaire où il y a, comme si ce sont des spots où il y a beaucoup de monde, ou est-ce qu'il y a des échanges entre les surfeurs ? Ou est-ce que c'est comme les cueilleurs de champignons à la campagne, ceux qui ont les bons coins le disposent d'autres ?
Oui, alors on aime bien être peinard. Alors c'est un peu compliqué parce que ça devient exponentiel un peu la ferveur du surf. Donc c'est vrai qu'on maintenant il faut pouvoir partager. Après, on peut toujours faire les sessions entre midi et deux le dimanche. On peut trouver des ce qu'on appelle des secret spots, des endroits qui ne sont pas trop connus. Il y en a de moins en moins. On peut aussi voyager. Ça se partage, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très solitaire. Et moi, j'aime vraiment me lever tôt le matin, très tôt le matin, à la lueur du soleil, et puis faire mon heure de surf. Et après, je suis paré pour la journée, quoi.
Et ouais, après vous y pensez plus.
Quand je sors un peu de cette session, c'est un peu comme un purgatoire. On sent vachement bien après. On sent d'attaque pour faire la journée, quoi.
Philippe Coingry, vous disiez que vous étiez un marin d'eau douce.
Ah oui.
C'est quelque chose du même ordre qu'on ressent sur un bateau, ou ça n'a rien à voir?
Oui, je pense que c'est ça. Non, mais il y a un côté. Vous parliez de drogue tout à l'heure. C'est pas tout à fait ça. J'ai presque l'impression que c'est une espèce de secte, en fait, de communauté. On a l'impression que quand on est sur l'eau, qu'on connaît des choses, qu'on voit des choses que les autres à terre ne voient pas. Moi, la moitié de ma famille est jurassienne. Alors, première fois que j'ai vu un bateau, je me suis demandé ce que c'était que cette chose. Première fois que j'ai mangé du poisson également. Et puis finalement, j'y ai pris goût. Et c'est vrai que c'est absolument fascinant. Et c'est vrai que moi, je regarde les surfeurs avec beaucoup de curiosité. Il y a un côté absolument magique, je les vois faire des choses absolument incroyables. Il y a un côté, j'arrive à dompter l'océan, la nature, en même temps, comme vous le disiez, je passe quand même 90% ou 80% de mon temps dans l'eau parce que je chute et je recommence toujours et je regarde toujours l'horizon. Alors il y a un côté absolument fascinant et en effet on revient toujours et on y revient comme une vague.
Ouais, mais le moment où on est sur la vague doit être extraordinaire.
Ouais, c'est vraiment jouissif. Hein, je pense.
Enfin, moi, je sais pas, on en a parlé un tout petit peu avant, on peut le dire. Moi, je pense à ce film-là qui est ressorti l'an dernier, qui s'appelle The Endless Summer. J'ai toujours un aussi bon accent. On voit là des types qui sont brillantissimes et qui arrivent à surfer très, très longtemps. On dit que ça doit
Après,
être.
Après, ce qui est chouette avec Endless Summer, c'est que c'est aussi un film sur la quête de la vague parfaite, un spot incroyable. Ouais. Et chez tout surfeur, il y a cette envie aussi de découverte qui pousse aussi. Assez pratiquant à voyager, à rencontrer des personnes pour justement échanger et trouver l'endroit idéal pour surfer. Et ça, je trouve ça intéressant, cette quête. Alors, je pense que la vague parfaite n'existe pas, mais en tout cas, de la rechercher, c'est un but qui peut combler une vie.
Vous ne vous limitez pas à Quiberon, donc vous allez aussi dans d'autres endroits, vous pouvez essayer d'autres endroits, vous cherchez de...
Ouais, tous les ans, je fais en général deux destinations, ouais. Et en fait, c'est à travers ces destinations que j'ai rencontré différents surfeurs et qu'il y a une sorte d'universalité dans le surf qui est intéressante. Et c'est là que ça m'a amené sur l'idée de faire un livre qui regroupe un peu ces rencontres. Et après, dans chaque destination, il y a ces problématiques qui sont différentes, qui sont liées à la géographie. La France est intéressante parce que la France est très centralisée, donc c'est une problématique sur la centralisation. Et puis,
Très beau livre quand même, il faut qu'on le lise.
C'est sympa, merci. Livre que je réalise avec mon ami Paul-Henri Bison qui a ce rôle d'éditeur dans le livre. Et donc,
se tient finalement, ça.
Ouais, c'est ça.
Et le livre, vous l'avez fait en crowdfunding ?
Ouais, on a fait une levée de fonds parce que voilà, c'est vraiment autoproduit. Donc c'est édité chez Room Number, qui est la maison d'édition de Paul-Henri Bison. Et donc c'est fabriqué au studio. Et donc on a fait une levée de fonds crowdfunding pour pouvoir produire le livre à 1200 exemplaires.
Vous n'auriez pas pu le faire chez un éditeur ? C'était trop compliqué d'aller chez un éditeur qui avait pignon sur rue ? Ça ne les intéressait pas ? C'était trop pointu ?
En fait, c'est un bouquin qui est un peu hybride. Ça parle à la fois d'art, ça parle à la fois de surf. Et du coup, ça n'intéresse pas vraiment des éditeurs de surf. Donc c'est un livre entre un roadbook et un moodbook. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir un côté un peu artisanal, de le faire soi-même.
Et donc vous l'en essentiellement des surfeurs. Vous savez si vous allez au-delà.
Parce qu'en fait, il n'a pas un très grand succès dans les surf shops. Il a plutôt un succès dans les librairies d'art comme chez OFR à Paris ou Artaza ou chez Colette par exemple dans les concept stores.
C'est le deuxième. Il y en a un troisième de prévu.
Voilà. Là, on travaille d'ailleurs. On est en recherche de casting pour le numéro 3. La destination sera au Mexique. On part au mois de décembre. Donc, vous allez chercher
des surfeurs mexicains ?
Ouais, des surfeurs mexicains, enfin des artistes qui ont un rapport à l'océan qui est particulier et qui vivent au Mexique. Donc on ira au mois de décembre pour rencontrer ces gens-là. On en cherche 5 et donc voilà.
Bah écoutez, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont concernés, qu'ils n'hésitent pas à venir. Je voulais savoir encore une chose. Oui, qu'est-ce que vous pensez du sujet du succès du livre Jour Barbare ?
Alors, je l'ai pas fini. Je suis en plein dedans. Et donc, c'est un livre qui est magnifique. C'est un roman autobiographique. En fait, moi, ce que j'ai aimé dans le livre et ce qui m'a rassuré aussi, c'est qu'on partage à peu près les mêmes joies et les mêmes angoisses. Ces joies, on a parlé, le bonheur de jouer dans l'océan.
Ouais, lui, en plus, il découvre ça à Hawaï dans les années 70, si je ne me trompe pas, au début du livre.
Ouais, c'est ça. Et puis le côté angoissant, parce qu'il y a un peu une bipolarité, c'est-à-dire que on se marginalise quand même beaucoup avec le surf. Et surtout, à son époque, c'était beaucoup plus compliqué de dire, voilà, maintenant c'est un peu plus à la mode de dire, je fais du surf, mais qu'à son époque, c'était un peu compliqué d'avouer cet amour pour l'océan. Et il y avait un côté un peu, une vision un peu redneck, et un peu hippie.
Surf était un truc d'hippie, voilà. De contestataire.
Ouais. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il a essayé de trouver un équilibre, lui, son propre équilibre entre son travail de journaliste et sa passion pour le surf.
Oui, Alexis Chaillou, vous disiez, pardon ?
Non, je disais qu'il y avait des liens avec Greenpeace, même si c'était vraiment le tout début de Greenpeace, où il y avait 4 personnes qui partaient sur un bateau pour aller essayer d'empêcher les essais nucléaires en Alaska. Donc c'était vraiment aller se mettre là où les crimes écologiques se déroulent, en disant vous faites ce que vous voulez, mais nous on y est. Donc si vous lancez les bombes, vous nous tuez avec. C'est vraiment l'idée de Greenpeace à la base, qui est de dire on pointe du doigt, on montre avec des images, mais c'est toujours non violent. C'est-à-dire que la violence, elle est toujours du côté en face.
Vous en avez été victime quand même.
De la violence. Ah oui.
Et voilà, ça, on s'en souvient, c'était pas du côté de l'Alaska, mais c'était en Nouvelle-Zélande et ça reste une tache indélébile sur le drapeau tricolore et sur les services français, malheureusement.
Et pardon, allez-y.
Non, tout à fait. Mais je suis curieux de savoir un petit peu, parce que on a la vision de la communauté surfeur assez écolo, pour le dire comme ça, assez proche de la nature, à protection des océans. Je veux savoir si c'était vrai.
Oui, on préserve notre environnement, parce que c'est notre terrain de jeu. Et puis après, c'est intéressant aussi, c'est que le surfeur devient aussi un sujet d'étude. J'ai vu ça, comme c'est des gens qui pratiquent souvent qui vont surfer sur le même endroit, ils prélèvent sur les surfeurs des cheveux ou des poils pour voir justement la pollution de la plage, comment ça évolue. Donc ça devient aussi un sujet d'étude. Et autrement, je t'invite aussi à lire un des portraits dans le dernier Who Is the Best numéro 2, qui est celui de Corentin.
Aussi commercial.
Pour rebondir, de Corentin Neuchâtel-Perron, qui développe un projet qu'il explique dans le livre Nomades des mers, où justement il traverse tous les océans du monde entier pour mettre en avant et développer des technologies low-tech pour l'autonomie en mer. Et je crois que là, il doit être entre le Sri Lanka et l'Indonésie. Et donc là, il fait un tour du monde où il met tout ça en open source. Et allez voir le projet Nomade des Mers, c'est un projet qui
est
vraiment...
Il n'a plus qu'à faire un film et il sera au festival et l'émission
exactement,
sera
complètement mais en fait, il y a Arte qui le suit, donc il va sortir un documentaire l'année prochaine. Donc je pense qu'il pourra le proposer à votre festival l'année prochaine.
Mais parle-lui du festival, on l'accueillera avec plaisir.
Ok. Juste d'un mot pour finir, vous expliquez comment le succès aujourd'hui du surf, c'est comme le yoga pour ceux... C'est le yoga de ceux qui peuvent monter sur une planche, non ?
Je pense que c'est vraiment lié.
Enfin, méditation,
c'est vraiment lié à la méditation, je pense. Et ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et qui sont des joies très simples, très accessibles. Et puis le bouche à oreille a fait le travail. Et c'est vrai que c'est une pratique qui vient d'Hawaï, qui s'est développée en Californie, et qui maintenant devient un peu mondiale.
La matinale d'été de Radio Campus Paris. Merci à Paul-Henri Bison au téléphone, à Alexis Chaillot de Greenpeace pour le festival en ligne de Greenpeace, au journaliste Philippe Coimbrier qui est aussi écrivain en livrant un excellent Haut et Court paru il y a quelques années aux éditions La Dilettante, et au designer, éditeur et surfeur Joran Briand d'être venu. Messieurs, merci. Radio Camping était préparé et présenté aujourd'hui par Christophe, à la réalisation le toujours aussi patient et parfait Elliot. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook demain à 19h, même nouveau et même chose, nouveau rendez-vous de Radio Camping Paris. Merci beaucoup, à bientôt.